Le journal Mireille Boukassa. À la une, la course au poste de gouverneur de la province du Sud-Kivu. Hier, les deux derniers candidats ont présenté leur programme d'action devant les députés provinciaux. L'élection, elle, est prévue pour ce vendredi 21 mars. Au Kasaï occidental, par contre, les anciens vice-gouverneurs réclament leurs indemnités de sortie. En réponse, le gouvernement qui reconnaît ces revendications souligne qu'elles ne sont pas prévues dans le budget de l'État 2008. Une première depuis 3 ans, la DGM Itouri vient de verser ses recettes dans le compte du Trésor public par le biais de la DGRAD, mais cette action de conformité ne réjouit pas du tout la direction provinciale de la DGM à Kisangani. Nous y reviendrons dans la seconde partie de notre journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les deux derniers candidats au poste de gouverneur du Sud-Kivu ont présenté hier mardi leur programme d'action devant les députés provinciaux. René Kaukula et Maître Louis-Léonce Mouderoy ont expliqué pendant 2 heures chacun comment ils comptent redynamiser les activités de développement de la province, mais aussi juguler l'insécurité et promouvoir les bonnes relations avec les pays voisins. Didas Namujimbo a assisté à cette cérémonie.
C'est dans cette ambiance d'applaudissements que les députés provinciaux ainsi que les publics de Bukavu ont accueilli les discours programmes de chacun des deux candidats gouverneurs ce mardi dans la salle de l'Assemblée provinciale. Des cris de joie et de soutien aux candidats que le coordonnateur de la CEI ne s'empêchait pas d'interrompre pour maintenir l'ordre et le sérieux dans l'hémicycle. Rappelons que depuis lundi, 4 candidats, dont 3 juristes, cherchent à gouverner la province à travers leur projet de société défendu devant les députés. Députés électeurs. Tous les projets se sont rejoints sur plusieurs points, notamment combattre l'insécurité et les vols, mais aussi réaliser les 5 chantiers du président Kabila. Pour la CEI, c'est la satisfaction, telle que l'explique le chargé de communication au bureau provincial, Christian Alimassi.
La commission électorale indépendante est satisfaite du déroulement de cette campagne électorale. Elle a supervisé par des exposés des candidats mercredi. La campagne va continuer. La commission électorale indépendante pour la journée de jeudi 20 mars va préparer les bureaux de vote au sein de l'Assemblée provinciale.
Notez que le vote du gouverneur et son vice est prévu pour le vendredi 21 mars prochain. Didas Namujimbo, Bukavu, Radio Okapi.
Comment réussir à arracher les postes aux prochaines élections urbaines, municipales et locales? C'est le thème d'un atelier de formation de 2 jours qui a regroupé une 30aine de femmes du Bandundu. Il s'agit précisément des femmes issues de différentes associations féminines et partis politiques, membres du réseau de femmes et développement REFED Bandundu. Selon ces femmes, il faut identifier les candidates crédibles, compétentes, capables de les représenter dans toutes les institutions. Elles appellent ces candidates a accepté de céder la place à celle qui pourra être acceptée facilement sur terrain. Le secrétaire exécutif permanent du REFED Bandundu parle des stratégies à mettre en place pour arriver à un résultat meilleur. Madame Nathalie Manguila, au micro de Fabien Kambinzi.
La femme doit se préparer. Nous devons sensibiliser, informer, former la femme sur l'éducation civique et électorale pour qu'elle fasse ses droits et ses devoirs. Et surtout, nous sommes en train de sensibiliser pour que la femme ne puisse plus avoir les mêmes échecs et à les identifier candidates et à faire les présélections pour qu'on puisse avoir une femme au poste de décision et parler de la parité. Lui disposer aussi des moyens financiers, matériels et humains pour qu'elle puisse réussir à tous ces processus électoraux. Si nous parlons de présélection et sélection, c'est pour dire que les femmes doivent s'accepter d'abord avec amour, de savoir que si moi je n'ai pas de compétences, celle qui a des compétences, je peux lui faire passer, lui laisser la place. C'est pour ça que nous devons apprendre aux femmes de laisser la place aux autres qui ont des compétences et d'expérience pour que nous réussissions et que demain nous ayons des femmes au poste de décision pour ne pas se précipiter pour rien.
Nous l'avions dit dans ce maire, au Kasaï occidental, les anciens vice-gouverneurs et les membres de leur cabinet remplacés par ceux élus en 2007 réclament leurs indemnités de sortie. Le président du collectif des anciens gouverneurs et vice-gouverneurs affirme que cela fait plus d'une année que le ministre du budget n'a toujours pas ordonné l'exécution du paiement. La même source souligne que cette situation ne concerne pas uniquement le Kasaï occidental, mais les autres provinces du pays également. Durie Ngandu Kindou est joint au téléphone par Marie-Chantal Lumba.
Nous sommes en train de réclamer nos indemnités de sortie qui du reste un droit. Quand nous étions en fonction, on a été demandé de ne pas nous payer parce qu'il y avait un problème sérieux qui est celui des élections. Mais au moment où nous parlons, nous avons mis les institutions en place. Nous sommes en train de souffrir. Nos collègues sont même malades. Certains d'entre eux ont perdu les membres de famille au moment où je vous parle. Je vous parle en qualité du président du collectif de tous les gouverneurs à transition et vice-gouverneurs, ainsi que le membre de leur cabinet. Donc je demande au chef de l'État qu'il puisse s'impliquer et demander au ministre de Budget qu'il tergiverse pour nous payer des indemnités de sortie. Nous avons fait toutes les démarches. Le président de l'Assemblée nationale a instruit au gouvernement, le ministre de l'Intérieur, a écrit par 4 fois à son collègue de Budget qu'il tergiverse.
La revendication des indemnités de sortie des anciens gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Kasaï occidental est reconnue et appuyée par le gouvernement, affirmation du vice-ministre au budget, selon Célestine Mbuyuka-Bongo. Le problème posé par les anciens chefs de l'exécutif provincial est normal, mais il n'est pas prévu dans le budget de l'État 2008. Le vice-ministre précise que le processus des négociations a été engagé depuis lundi dernier entre le ministère du budget et les concernés pour trouver une solution. Dominique Calonzo est détenu depuis hier mardi après-midi au cachot du parquet de grande instance d'Ouvira. Ce journaliste de la radio locale Messager du Peuple a été cueilli par 3 policiers en plein reportage au parquet d'Ouvira, d'après le directeur de la radio communautaire Messager du Peuple. D'autre part, l'organisation de défense de la presse Reporters sans frontières dénonce dans un communiqué, je cite, « la détention depuis 11 jours au secret et sans motif connu d'un journaliste dans les locaux de l'ANR à Kinshasa. Selon RSF, Simba Mbete Ponte, directeur du billet hebdomadaire L'Interprète, a été enlevé vendredi 7 mars 2008 vers 17h30 à un arrêt de bus à Kinshasa par des hommes armés non autrement identifiés. Une première depuis 3 ans, la DGM Ituri vient de verser ses recettes dans le compte du Trésor public par le biais de la DGRAD. Mais cette action de conformité ne réjouit pas du tout la direction provinciale de la DGM à Kisangani. Nous y reviendrons dans la seconde partie de notre édition après l'actualité en plus bref. La Fédération congolaise de football a publié lundi dernier la liste de 49 présélectionnés pour la campagne des éliminatoires de la CAN 2009 prévue en Côte d'Ivoire. Cette nouvelle compétition continentale des nations est réservée uniquement aux joueurs africains évoluant dans leurs pays respectifs. Exemptés du tour préliminaire, la RDC entre en compétition au premier tour. Le Congo-Kinshasa sera opposé au vainqueur du match Congo-Brazzaville contre Tchad. Le match aller se jouera à Kinshasa le week-end du 2 au 4 mai prochain et le retour se jouera à l'extérieur du pays et ce sera du 16 au 18 mai prochain. Au Congo-Brazzaville, Christophe Moukweke, député de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, le parti de l'ancien président congolais en exil Pascal Lissouba, a plaidé lundi dernier auprès de l'actuel président Denis Sassou Nguesso pour une amnistie de l'ancien chef d'État. Ce dernier s'est d'abord réfugié en Grande-Bretagne et vit depuis 3 ans en France. Le Parlement kenyan a entériné à l'unanimité hier l'accord de partage du pouvoir et de gouvernement de coalition signé le 28 février entre le président réélu Mwai Kibaki et l'opposant Raila Odinga. Une étape cruciale pour sortir le pays d'une crise politique majeure et meurtrière. L'approbation de ces 2 textes ouvre la voie à la mise en application de cet accord signé par le président Kibaki réélu le 27 décembre dernier et son adversaire malheureux à la présidentielle, Odinga, appelé à occuper des fonctions de Premier ministre.
Okapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
Nous commençons par Kinshasa Innocent Olenga, grève dans les universités et instituts supérieurs. L'Institut facultaire des sciences, de l'information et de la communication se soustrait de ce mouvement.
C'est la décision prise hier à l'issue de l'Assemblée générale du corps académique de cet institut. Les professeurs disent avoir pris connaissance de la volonté exprimée du ministre des tutelles, une volonté d'instaurer un cadre de concertation entre les différents corps de l'enseignement supérieur et universitaire et les gouvernements, les enseignants évoque également comme raison les sollicitations permanentes des étudiants en faveur de la reprise des cours, rappelant que les professeurs de l'IFASIC sont en grève depuis le 3 mars dernier.
À Bounia, le service de la Direction générale des migrations DGM vient de verser pour la première fois depuis 2005 ses recettes dans le compte du Trésor public par le biais de la DGRF.
Cette information a été rendue publique hier mardi par les responsables locaux de ces deux services. Sachez que les recettes antérieures de la DGM Ituri étaient transférées directement à la direction provinciale de ces services en violation des dispositions légales, mais il semble que ces nouveaux modes de versement n'enchantent pas la direction provinciale de la DGM à Kisangani. Isaac Rimoyope nous fait le point.
Le bureau de la DGM vient de verser 815 dollars américains à la salle de la Banque centrale du Congo à Bounia. Cette action est l'œuvre du nouveau chef de poste principal de la DGM à Ituri. Selon François Mawale Keni, chef de bureau de la DGRAD à Ituri, les anciens responsables de la DGM dans les districts n'ont jamais voulu se conformer.
Quand on a vu l'ancien chef le 12 novembre 2017, il nous a dit catégoriquement qu'ils ne peuvent pas verser leurs recettes à la banque parce qu'ils ont de l'ordre seulement à recevoir de leur hiérarchie. Je ne comprends pas pourquoi ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont comme tous les services gérants des recettes du trésor public.
Le nouveau chef de poste principal de la DGM à Bounia, lui, déclare faire l'objet d'une demande d'explication de sa hiérarchie depuis qu'il a décidé de verser de l'argent à la banque. Son action est cependant appuyée par les autorités du district. Dieudonné Rwabona, commissaire des districts assistant chargé de l'économie, a été joint au téléphone.
Transférer de l'argent auprès de leur division provinciale. Et là, c'est inacceptable. L'argent qui relève de la direction générale de l'immigration. C'est de l'argent du trésor public intégralement. Cet argent doit être versé à la Banque centrale du Congo. C'est réglementé par une loi.
Ces derniers prévoient une rencontre jeudi prochain avec tous les responsables locaux des services générateurs des recettes de l'État pour décanter cette situation. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Revenons à Kinshasa pour parler du lancement hier de la campagne nationale d'information, de sensibilisation et de plaidoyer sur les violences sexuelles en RDC.
C'est Philomène Omatoukou, ministre du Genre, Famille et Enfants, qui l'a lancé en collaboration avec les Fonds des Nations Unies pour la population et les membres de l'initiative conjointe des luttes contre les violences sexuelles faites aux femmes, aux jeunes, aux enfants et aux hommes. La campagne s'étendra sur une période de un mois et a été lancée avec une caravane. Je sais que nous vous opposons.
La caravane est partie du ministère du Genre, Famille et Enfants pour la cité de Kinkolé dans la commune de Lancélé, en passant par la cité de Mpassa où le PNUD, membre de l'initiative conjointe, a inauguré un puits d'eau. La journée était aussi marquée par la remise d'un tronc agricole et des contraceptifs aux femmes maraîchères par la FAO et l'UNFPA. Violence sexuelle Ekokiboye, violence sexuelle Inatosha ont scandé les femmes. Comme pour dire, il faut arrêter avec les violences sexuelles. Cette campagne a entre autres pour objectif de faire un plaidoyer au niveau des acteurs pour rompre les silences autour des violences sexuelles et d'emmener les autorités judiciaires à prendre des mesures pour arrêter l'impunité des auteurs de ces actes. On termine ce journal à Lubumbashi avec le plaidoyer de l'administrateur directeur technique de l'OFIDA en faveur du bivac.
En séjour à Lubumbashi, l'ADT de l'Office des douanes et assises s'inscrit en faux contre les allégations de certains opérateurs économiques du Katanga qui estiment que l'installation du bureau des bivacs dans la province qui préfère accentuerait la misère de la population, prétextant qu'il y aura hausse des prix sur les marchés. Pour David Kalandé, les bivacs ne perçoivent aucune taxe. Son rôle se limite au contrôle à l'embarquement de la marchandise en provenance de l'extérieur. David Kalandé au micro de Jean Gandou.
Le travail que fait Bivac a une importance dans la mesure où il nous permet de contrôler le prix et de pouvoir certifier ce prix, ce qui à coup sûr va augmenter sensiblement les recettes parce que nous savons que plus de 80% des marchandises qui sont déclarées ne le sont pas avec des factures exactes et avec des prix exacts. Le fait que Bivac fait son travail n'implique aucune taxe. Donc Bivac ne provoque pas le paiement d'une taxe supplémentaire ou quelconque. Le vrai problème c'est que les importateurs devraient dire à la population que en fait nous n'avons pas depuis longtemps fait notre travail comme il se devait. Maintenant qu'on nous demande de le faire, ça doit avoir des implications sur le prix de produit. Mais avant cela, puisque les choses n'étaient pas faites correctement, quel a été justement l'avantage qu'on a accordé à la population alors qu'on déclarait avec de prix plus bas, mais en disant qu'effectivement c'était le vrai prix.
Et c'est par ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur www.radiocapi.net.